Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode 80 qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière sur la question du temps. Pour une fois, je t'invite à vraiment écouter celui de la semaine dernière qui fera sens avec celui d'aujourd'hui. Mais si tu veux la jouer aventurier ou aventurière, bienvenue, c'est parti. J'ai eu quelques retours de l'épisode de la semaine dernière, donc je tiens déjà à vous remercier pour les messages privés, notamment ça vous a beaucoup parlé, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. En effet, on court très souvent après le temps, donc merci pour vos retours. Aujourd'hui, on va continuer à explorer cette notion du temps dans notre vie personnelle, et puis la semaine prochaine et la semaine d'après, on verra l'utilisation du temps dans notre vie familiale et dans les autres domaines de vie. Par rapport aux outils que je vous ai donnés la semaine dernière, vous avez peut-être avancé dans votre audit des activités que vous faites déjà, des activités qui vous prennent déjà du temps. Vous avez peut-être déjà, avec la liste et la matrice d'Eisenhower, vu à quel point la quantité de temps pour chaque domaine de vie et la quantité de temps pour chaque activité vous paraît plus concrète, vous paraît plus perceptible. Vous avez peut-être mis avec surprise un nombre à la fin de votre semaine sur telle ou telle activité. Qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce résultat? Et on va pouvoir continuer notre introspection avec 12 nouvelles pistes aujourd'hui sur faire la paix avec ce temps qu'on a ou ce temps qu'on n'a pas ou qu'on croit ne pas avoir. Par rapport à votre matrice, dans votre case urgent et important, je vous invite à regarder aujourd'hui toutes les tâches qui pourraient vous prendre moins de 5 minutes. Il y en a sûrement dans cette case qui vont vous prendre très peu de temps. Elles sont là, elles sont à cocher, elles sont dans la liste, elles sont dans la to-do et finalement elles prennent un espace qui est bien supérieur au taux et à l'horaire et à la durée nécessaire pour la faire. Cette petite tâche qui va vous prendre moins de 5 minutes occupe de la charge mentale. Donc je vous invite chaque jour à prendre une ou deux ou trois petites tâches qui font moins de 5 minutes, comme régler le chèque pour la cantine de votre fille, comme sortir le carton de décoration de Noël de la cave, juste le sortir, hein, pas l'ouvrir, juste le sortir. Les petites choses que vous aviez mis dans urgent et important, les choses que vous pensiez faire cette semaine, de voir et de dépiler en quelque sorte toute la liste qui est dans cette case. Cette case, elle ne va pas être vidée en une seule fois, mais vous allez voir que ça vous crée une petite motivation juste de savoir que ça vous prendra moins de 5 minutes. Si vous vous souvenez d'un repas de Noël où vous aviez invité toute la famille, en regardant la vaisselle, vous vous êtes dit « c'est pas possible, il y en a pour des heures à faire la vaisselle et à rendre cette cuisine propre ». Mais en réalité, si vous dites « là, je fais juste les verres seront faits en 5 minutes ». Et à la fin, quand vous aurez fait les verres, vous direz « bon, j'ai au moins fait les verres ». Donc on va surfer un peu sur cette vague du « moins de 5 minutes, je peux le faire tout de suite ». Une fois que j'ai fait cette petite tâche de 5 minutes, en piste numéro 2, je vais prendre justement un tout petit peu de temps pour savourer la satisfaction, savourer la fierté, savourer l'émotion, la flamme agréable dans laquelle on se sent d'avoir réussi ce petit pas. Certes, ce n'était qu'un chèque pour la facture de la petite, certes, ce n'était que les verres du dernier dîner, mais vous l'avez réussi, vous l'avez fait. Ça sert de carburant, ça sert de satisfaction, justement pour vous valoriser et pour vous encourager à continuer sur votre liste de tâches, même si ce n'était pas forcément difficile à faire, ça enclenche une sorte d'élan pour la suite de l'aventure, pour la suite de votre tâche. On en parlait un petit peu dans l'épisode 75, comment utiliser les flammes agréables et les émotions agréables pour nourrir ce qui va un peu moins bien dans notre vie. Donc là, dans notre sujet sur la gestion du temps, on peut aussi valoriser que toutes ces petites choses que vous avez déjà faites dans votre journée, on parle aussi de « did list », Si un jour vous vous sentez vraiment submergé par tout ce qu'il y a à faire, vous pouvez aussi rétrospectivement vous dire « Ah mais j'ai fait plein de petites choses ». Vous avez fait dans votre journée plein de petites choses. Donc vraiment de surfer sur la vague de la motivation, des toutes petites tâches, de la satisfaction, de la fierté. Et puis pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 75. Troisième astuce, dans la case « Important ». Donc, je vous rappelle que ce sont les projets qui n'ont pas de date butoir précise. Ils n'ont que la date butoir qu'on leur met nous-mêmes, hein, qu'on a décidé, que ce soit une reconversion, un déménagement, une relation, une mise en place de formation. C'est vous qui voyez quelle est la date butoir. Mais comme cette date butoir, elle est sans doute loin, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, vous allez essayer de créer pour chacune de vos tâches importante, un rétro-planning de sous-tâches. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on fait de l'accompagnement et du coaching. Quand vous mettez en place un plan d'action, vous voyez l'objectif final, hein, la destination, et vous allez essayer de décider quelles sont les trois grandes étapes avant d'arriver à la destination. C'est la même chose si vous partez sur l'autoroute en vacances, vous allez soit faire tout d'une traite et être complètement épuisé, soit vous dire « je vais faire 2 heures, je vais m'arrêter, on va faire jouer les enfants, on va peut-être prendre un café, après on va refaire 2 heures, on va s'arrêter, on va aller à l'air de jeu », de voir quelles sont les étapes pour relâcher entre deux étapes aussi la pression de ne pas tout faire d'un coup pour ne pas griller toute notre énergie et nos cartouches de temps, d'autant que la vie continue sur les autres domaines de vie. Donc ce projet-là, vous allez essayer de le découper et de le placer dans un rétro-planning. Peut-être que pendant un mois, vous allez faire toute la première étape de ce projet. Ensuite, pendant un autre mois, la deuxième étape de ce projet, etc. Jusqu'à avoir une idée un peu plus précise de ce qui se joue en semaine 3, de ce qui se joue en semaine 8, pour que la montagne vous paraisse bien moins haute. De la même façon, hein, si vous avez déjà fait de l'alpinisme ou de l'escalade, ou si vous avez vu des films sur l'ascension des gros sommets dans le monde, évidemment, au niveau de la respiration, de l'altitude, il y a des paliers pour reprendre son souffle et pour redémarrer avec la meilleure énergie d'un camp de base à un autre camp de base. Donc là, sur vos gros projets, sur vos projets importants, je vous invite à analyser cette façon de faire, à voir quels sont vos moments de répit et de repos entre deux grandes étapes sur vos projets importants. Quatrième astuce, c'est de faire un petit pas par jour dans les rétro-planning. Ces petits pas par jour, quand vous avez défini l'étape globale, ça va être de se dire « je préfère faire un petit pas par jour pour éviter de crouler sous la tâche » plutôt que de me dire « je ferai ça le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain » de procrastiner et de vous retrouver avec plein d'étapes à faire le mois prochain parce que cette fois-ci, vous n'étiez pas motivé. Donc, d'utiliser une fois de plus hein, la méthode des petits pas, donc on appelle ça le Kaizen dans les philosophies orientales, où vous avez peut-être aussi entendu parler de la méthode Pomodoro qui, comme la méthode Fly Lady d'ailleurs, utilise un timer qui motive la troupe, qui motive la personne, qui motive l'équipe à travailler pendant 25 minutes et ensuite s'arrêter pendant 5 minutes. Si vous ne connaissez pas du tout cette méthode, je vous invite à la chercher sur Internet, vous allez trouver très facilement. Mais sur le fait que ce soit un gros projet, on est vraiment loin de la petite tâche de 5 minutes de tout à l'heure, quand vous êtes sur un gros projet, par exemple, la première fois que je me suis organisée pour le podcast, je ne me suis pas dit « je vais enregistrer, je vais mettre en ligne la première journée ». Donc, j'ai découpé. D'abord, j'enregistre. Après, je réfléchis à comment je vais faire le visuel, comment je vais faire le texte, comment je vais faire la légende, comment on met en ligne, comment on met la promotion de l'épisode en ligne. Donc, de séquencer, de découper toutes les actions qui vont nourrir ce projet-là, cet épisode de podcast dans mon cas, ou alors vous, votre prochain gros dossier, votre prochaine formation, votre prochain projet personnel ou professionnel. Cette manière d'avancer pas à pas est satisfaisante aussi au niveau des flammes agréables de satisfaction, comme on l'a vu dans le point 2. Ensuite, prochaine astuce, c'est que nous allons d'abord reformuler ce qu'on a fait sans nous laisser envahir par Léopold, notre hamster, qui va nous dire qu'on aurait pu mieux faire. Alors, je m'explique, c'est que quand on commence ce projet, on est très motivé au tout début et on a tendance à ce léger perfectionnisme que chaque étape doit être absolument lisse, parfaite, il ne doit pas y avoir de détails manquants. Sauf qu'en faisant chacune des étapes à fond, au maximum, on est dans ce jugement perpétuel que ça pourrait être mieux, on est dans ce jugement que c'est soit tout, soit rien, soit on fait bien, soit on fait pas, qui nous pousserait à reporter l'activité à un jour où on serait en meilleure forme. Au contraire, l'idée de faire du Pomodoro ou du Fly Lady, c'est de se dire au bout des 25 minutes, j'aurais fait de mon mieux, mieux vaut fait que parfait. C'est une phrase que vous entendez beaucoup en entrepreneuriat et que moi, j'ai découvert justement avec Marla Sillet dans Entretien avec mon évier, donc la méthode Fly Lady dont je parle très souvent dans la Zen Letter. Donc, coucou aux abonnés qui voient ça depuis presque 19 Zen Letter depuis le début. Et cette méthode, je la trouve très pertinente parce qu'effectivement, quand le timer sonne, quand le chronomètre sonne au bout des 25 minutes, il y a deux effets possibles de notre cerveau, de notre Léopold. Soit il nous dit « Ah ouais, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses en 25 minutes » ou l'effet inverse qui est de dire « Ah bon, bah j'ai vraiment pas fini, il y a encore plein de bazar au milieu, ou mon dossier n'est pas fini, ou mon visuel, ma slide n'est pas fini. » Et donc tout de suite revient le jugement de « Ah, j'aurais dû aller plus vite, j'aurais pu aller plus loin » qu'on retrouvait dans l'épisode de la semaine dernière. On va couper court très vite sur ce qu'on aurait pu faire de mieux ou ce qu'on aurait pu faire de plus, puisqu'on n'a pas été en capacité de le faire pour de vrai. À la place, on va utiliser l'outil que j'appelle la reformulation positive, que je transmets dans le parcours Emotizen, qui est de se dire « ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait du mieux que je pouvais en fonction de mes compétences actuelles et de mes possibilités énergétiques et temporelles actuelles, et je suis contente d'avoir déjà fait ça. Je suis contente d'avoir osé, je suis contente d'avoir agi, je suis contente d'avoir fait. Je le fais pour moi, je sais le sens que ça a pour moi, et si ça ne paraissait pas assez bien aux yeux des autres, ce n'est pas à eux que je m'adresse. » Revenez vraiment vers vous, à chaque fois que vous avez accompli quelque chose sur votre tâche, que ce soit une petite tâche ou une grande tâche, que ce soit une sous-étape ou une sous-action, de vous féliciter à chaque moment, de vous reformuler quelque chose d'encourageant sur le fait que vous êtes en train d'avancer. Même si c'est peu perceptible, de vous dire « je suis en train d'avancer ». Je n'ai pas besoin d'une co-validation continuelle de l'extérieur, je suis ma propre validation, je suis en train de me dire « j'ai assez fait en ce moment et je suis contente de moi ». Vous voyez à quel domaine ça s'applique aujourd'hui, pour quel dossier vous êtes en train de vous juger continuellement de ne pas faire assez bien. Et revenez à vous en disant « je suis en train d'avancer, j'avance sur mon rétro-planning, j'avance sur ma case importante ». Peut-être que c'est un peu surévaluer la vitesse et la rapidité dans laquelle je pensais avancer. Donc c'est lié à l'attente qu'on en avait du résultat et que je peux éventuellement ajuster mon planning. Ce sera une des astuces que vous allez avoir tout à l'heure. Sur votre matrice d'Eisenhower aussi, vous avez vu qu'il y avait quand même plusieurs cases à parcourir chaque jour pour éviter d'oublier quelque chose d'urgent ou pour éviter d'oublier quelque chose d'important. Donc la sixième astuce, ce serait, avant de vous coucher, ce soir par exemple, d'écrire quelles seront vos trois grandes tâches pour demain. Quelles seront vos tâches, peut-être parmi les urgentes, peut-être parmi les importantes, que vous allez mettre en priorité pour demain. Évaluez quelque chose qui soit raisonnable, quelque chose qui ne va pas vous prendre toute la journée non plus. Ça veut dire qu'il y a des petites zones tampons, des petites heures de répit, des heures de repos, des heures où vous allez pouvoir souffler, en estimant chacune de ces trois tâches de manière la plus juste possible. Au début, ça va peut-être vous paraître difficile de trouver comment évaluer la durée de certaines tâches. Et puis, avec la pratique, avec l'habitude, vous allez pouvoir affiner, vous allez pouvoir mettre à jour continuellement la durée estimée de chacune des tâches de votre matrice. Je vous invite à poser là tout de suite les trois premières actions qui vous paraissent urgentes à mener demain. Et en face de ces trois actions, la durée estimée pour l'instant, elle va être ajustable demain, vous pourrez voir si justement vous évaluez correctement votre temps passé ou si vous le sous-estimez ou le surestimez. Les deux sont possibles et c'est pas un jugement et une évaluation à se faire vis-à-vis de soi, c'est que la perception du temps, comme on disait la semaine dernière, elle est très personnelle, elle est très individuelle. On peut croire que ça va nous prendre peu de temps, mais si on est en train de balayer à chaque fois nos pensées de Léopold qui est en train de critiquer ce qu'on est en train de faire, ça va nous retarder, ça va allonger la durée d'exécution. Donc vous allez peut-être voir au fil du temps que la durée du temps passé dans cette activité est proportionnelle au fait de penser que ce n'est pas suffisant ou de penser que ça devrait être mieux ou de penser qu'il faut compléter, ajuster, rajouter par les pensées plutôt désagréable de Léopold. On y reviendra si vous voulez en séance individuelle. Puis là, je vais continuer à vous distiller quelques pistes pour mieux gagner du temps et pour mieux faire la paix avec votre temps. Par rapport à ces trois choses à faire par jour, il y a plusieurs techniques pour savoir par laquelle on va commencer. Donc dans cette septième astuce, je vous invite à regarder la chronobiologie, regardez quel type vous êtes, si vous êtes quelqu'un qui travaille plutôt beaucoup le matin, quelqu'un plutôt l'après-midi, quelqu'un en soirée, à quel moment vous vous sentez le plus productif, à quel moment vous vous sentez avoir le taux d'énergie intellectuelle pour vraiment vous plonger dans la tâche la plus compliquée. Et en fonction de cette première estimation que vous allez faire au fil du temps en vous observant, de vous dire si je suis très productif le matin, je vais peut-être mettre la tâche la plus compliquée, la plus longue ou la plus difficile le matin. Il y a un livre qui s'appelle « Avaler le crapaud » qui est tiré des Américains qui s'appelle « Eat the Frog ». De se dire quand on met la tâche la plus difficile, la plus compliquée, qui a le plus d'ampleur et d'implication le matin, on peut se sentir soulagé l'après-midi. Si vous êtes du matin, ça peut être compatible aussi avec cette technique-là. Si vous n'êtes pas du matin et qu'il vous faut un peu comme un diesel, une mise en puissance et une mise en montée d'énergie au fil de la journée, peut-être gardez votre crapaud, gardez votre gros dossier pour la fin d'après-midi si c'est votre pic de productivité ou le soir, la soirée si vous êtes plutôt du genre hibou à travailler la nuit. Donc ça, c'est propre à chacun, une fois de plus. Comme l'arc-en-ciel, comme la cheminée, c'est vous qui allez déterminer votre mode de production et d'efficacité en fonction de vos observations, de votre conscience, de votre fonctionnement et de vos habitudes. Néanmoins, pour avoir essayé cette technique-là, de mettre la tâche la plus dense, la plus compliquée dès le matin, personnellement, j'ai senti une grande satisfaction à me dire « ça, c'est fait, ça, c'est coché ». On en a parlé un tout petit peu sur les petites tâches de moins de 5 minutes. Je trouve que ça donne un carburant de se dire « mon gros dossier, là, ma compta, mes impôts, aller voir la personne avec qui on a des frictions ». Une fois que c'est fait, on a un sentiment d'apaisement, on a un sentiment de redescente et de se dire « bon, ce qui reste à faire sur ma to-do, donc les deux choses que j'avais cochées pour aujourd'hui, seront moins lourdes à affronter ou seront moins compliquées à démêler ou me prendront moins de temps ». Donc, technique à essayer et puis je serais ravie et curieuse d'avoir vos retours si vous êtes plutôt du matin et si vous avalez votre crapaud le matin ou si vous le gardez un petit peu pour plus tard. Je serais ravie d'entendre ça. Huitième piste, ce serait de voir quel est notre taux d'impatience et quel est notre taux d'impuissance vis-à-vis de certaines tâches de notre liste. La semaine dernière, je vous en ai touché un petit peu, quelques mots, quand vous avez créé la toute première fois votre vie de cerveau autour de tout ce qu'il y avait à faire dans votre journée, dans votre vie, dans votre année. Quand on est débordé par le nombre de choses qu'on se dit avoir à faire, qu'on se donne à faire, que ce soit réel ou pas, on va très vite pouvoir se sentir impuissant et assez impatient, en se disant « j'aimerais que ça arrive vite, j'aimerais que ça se fasse facilement ». Donc ça, ce sont des attentes. Ces attentes, elles peuvent être réalistes si on s'y consacre suffisamment de jours et si on y met un petit peu d'énergie. Mais parfois, on se sent quand même impatient et impuissant d'avoir plus de résultats. Donc, je vous invite à vous créer une reformulation positive, quelque chose qui vous touche, quelque chose dont les mots résonnent, qui serait autour de « je fais de mon mieux et j'avance » ou « chaque petite action me rapproche de mon résultat ». Une phrase qui fasse sens pour vous comme une sorte de mantra. C'est quelque chose qu'on travaille aussi avec les participantes au parcours Emotizen, de se créer des phrases soutenantes, de se créer des phrases de reformulation positive qui, au cours de la journée, nous emmènent à nous dépasser. Non pas nous dépasser pour aller au-delà de nos limites, mais nous dépasser pour mettre de côté les petites critiques intérieures qu'on se balancerait sinon en disant « ouais, enfin bon, tu t'attendais à mieux, c'est pas terrible comme résultat » ou « ton boss n'a pas fait beaucoup de vues » ou « là, ton boss n'a pas eu vraiment beaucoup de retours vis-à-vis de ce dossier », etc. Les imprévus, la durée, la patience ne dépendent pas que de nous. On vit dans un monde collectif, on vit dans un monde social, donc on peut espérer des retours, on peut espérer des résultats. Néanmoins, on n'a pas toute la part de l'écharpe relationnelle, dont je parle très souvent en atelier de CNV. Coucou à celles qui participent à ces ateliers de CNV. Et aussi de se dire que même si l'autre ne voit pas mes résultats, même si l'autre ne voit pas tout ce que j'ai fait en amont, moi je le sais. Donc de vous reformuler, je suis contente d'avoir avancé, ça paiera un jour. Toutes les petites actions ont sens pour mon projet, ont un sens sur le long terme. Donc de ne pas vous restreindre à l'effet d'aujourd'hui seulement et de voir ça aussi comme une continuité, comme un long terme, comme un effet cumulé. C'était un des post-it zen qui est paru sur le compte Instagram. Donc si vous avez envie de petits moments de post-it zen comme ça, vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram pour voir les publications qui concernent un petit peu tous ces domaines de vie là. Après avoir fait vos reformulations positives, on va aller vers la piste 9 qui est pour avancer aussi bien que vous le souhaitez, pour avoir les résultats que vous souhaitez, je vous invite à faire quelque chose de très très simple, quelque chose qu'on a du mal à faire, quelque chose que vraiment chacun, on gagnerait tellement à le faire plus souvent et que moi-même parfois j'oublie de faire, c'est de mettre notre téléphone en mode avion. Ça paraît tout simple, hein. Mais toute la journée, le nombre de fois où on est déconcentré par la notif WhatsApp, le SMS, le mail, les petits pictogrammes sur les réseaux sociaux qui clignotent, on est sans cesse dérangé, on est sans cesse attiré par des notifications. Cette piste 9 de couper les notifications, de nous mettre hors d'état de dérangement, donc si vous êtes dans un bureau collectif, de mettre peut-être un petit panneau ou en disant « je me concentre pendant une heure, merci de ne pas me déranger », si vous avez un bureau perso, de le mettre sur votre porte, si vous êtes en famille, de mettre un petit post-it sur la porte de votre bureau, de vous réserver une zone où vous allez rester concentré. Finalement, le cerveau, quand il est concentré, pendant une vingtaine de minutes, il est à son maximum de compétences. Mais les distractions arrivent de toutes parts. Ça peut être quelqu'un qui sonne, ça peut être quelqu'un qui nous appelle, ça peut être quelqu'un qui vient nous demander « Maman, tu peux m'aider à ?» 3 points de suspension. Et là, notre cerveau va avoir du mal à se remettre dans la tâche. Il va avoir du mal à se remobiliser parce qu'il était en pleine concentration et la perturbation, la distraction l'a éloigné de sa concentration. Difficile à faire, je conçois, mais essayez de temps en temps de vraiment tout couper, de vous isoler et voyez si la productivité, voyez si l'avancée dans vos 25 minutes de Pomodoro est décuplée par le fait de couper vraiment tous les accès à l'extérieur de vous. Astuce numéro 10, se créer des petites routines pour rassembler toutes les activités qui ont le même thème, qui ont la même thématique et qui vont vous faire gagner du temps sur la mise en place et sur l'installation. Vous connaissez peut-être le mot de batching. On l'utilise beaucoup dans la zone de cuisine, dans la zone culinaire. Le fait de découper tous les légumes pour plusieurs jours, le fait de cuire toutes les préparations le même jour pour plusieurs jours, fait gagner du temps de préparation, fait gagner du temps de cuisson, fait gagner du temps de stockage, de nettoyage aussi de la cuisine et surtout fait gagner du temps pour les jours suivants. Ça veut dire qu'on perd un peu de temps à l'installation au départ, mais comme on travaille sur plusieurs effets et résultats sur plusieurs jours, cette installation en cuisine nous fait gagner au final du temps sur le reste de la semaine, du temps sur les attentes à devoir décider ce qu'on fait, dans quel ordre, quel matériel. Puisque tout est sorti, tout est à disposition, il ne restera plus qu'à panacher les actions pour que tous les plats soient prêts. Certains vont rester dans le frigo, certains vont rester au congélateur. Et en fait, cette méthode de batching qu'on entend plus souvent dans la cuisine, on peut très bien l'appliquer pour d'autres domaines, peut-être professionnels, peut-être associatifs, peut-être familiales. Si dans votre association, vous arrivez à résoudre tous les problèmes de la semaine en une seule réunion, eh bien c'est moins la peine de s'appeler tous les jours pour voir ce qui est en stock, ce qui est en attente de décision. Pareil dans votre profession. Si au travail, vous avez plusieurs choses à enregistrer dans vos vidéos, dans votre création de contenu, il serait peut-être intéressant de bloquer 40 minutes d'un seul coup pour faire toutes les publications de la semaine, si vous vous sentez motivé, de la même façon que là, quand j'enregistre le podcast, j'essaye d'en enregistrer 3 de suite parce que ça m'évite de réinstaller le matériel, de ranger le bureau de ma fille, de redescendre, de chercher la prise, de stocker sur l'ordinateur, etc. Ce temps d'installation est un temps de gagner, d'autant que l'énergie reste constante sur la première action, la deuxième, la troisième, puisqu'on est entraîné par l'élan de la première action, plutôt que de changer de dossier toutes les 25 minutes. Vous voyez que c'est complémentaire entre le batching d'un côté, le pomodoro de l'autre. À vous de voir dans quel domaine de vie vous voulez tester l'un ou vous voulez tester l'autre. C'est aussi valable pour l'administratif. C'est vrai que 5 minutes à faire la facture de cantine, ça peut être une source de satisfaction comme dans l'étape 1 qu'on a vu tout à l'heure. Néanmoins, si vous mettez très visuellement dans une panière toutes les factures à traiter et que vous les traitez le dimanche à 15h, eh bien vous allez faire toutes les factures d'un coup dans la même énergie. Vous serez content à la fin d'avoir vidé votre panière de factures administratives et ensuite on n'en parle plus pendant une semaine. Tout ça est panachable en fonction de l'urgence et de l'importance que vous accordez à votre sérénité. Pour certains, payer les factures quand elles arrivent, si elles prennent moins de 5 minutes, va être un confort. Pour d'autres, se dire « je sais exactement où je mets toutes les factures de la semaine et je dédie un seul temps dans ma semaine pour traiter toutes les factures d'un seul coup. Comme ça, je ne suis pas dispersée et comme ça, je suis sûre que tout va être traité sans en oublier une seule. » À vous de voir quelle routine de batching vous allez mettre en place. C'est valable aussi pour le ménage. C'est valable aussi pour les allers-retours pour les enfants. Si vous pouvez aller faire les courses pour tout le monde d'un seul coup, vous allez gagner un temps fou. Plutôt que d'aller et chez le primeur de fruits et légumes et au supermarché pour les laitages, etc. De batcher tout ça sur la même demi-journée pour éviter de faire des allers-retours toute la semaine. Donc voyez comment c'est compatible avec votre organisation. On parlera un petit peu plus de la famille la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai que de vous à vous, par rapport à votre vision du temps, l'idée de mettre en place des routines de batching, vous allez voir que ça va un petit peu contaminer vos autres domaines de vie si vous le faites déjà pour vos contenus à vous propres. Onzième astuce, c'est de matérialiser au maximum ce qui est en cours, ce qui est fini et ce qui est à faire. Vous avez peut-être commencé un dossier en vous disant « j'aurai le temps de le finir plus tard », mais comme il est empilé parmi les dossiers finis et les dossiers pas commencés, c'est peut-être un peu difficile de le retrouver. Que vous soyez en version papier ou que vous soyez en version numérique, sur votre ordinateur, dans votre boîte mail, sur votre téléphone, d'organiser les actions à faire en dehors de la matrice Eisenhower qui, elle, est sur le même papier, sur le même visuel, de matérialiser vraiment ça. Est-ce que c'est une tâche qui est en cours, c'est une tâche qui est pour plus tard ou c'est une tâche qui est déjà finie? D'avoir des dossiers ou des paniers ou des modes de rangement, peut-être un code couleur ou un nom dans votre boîte mail avec vraiment très explicitement dossier à finir, dossier commencé, dossier pour le mois de janvier, etc. Notez pour que ce soit plus facile et que vous n'ayez pas à chaque fois à vous poser la question « ça c'est à finir pour quand déjà ?» De vraiment vous donner des dates butoirs explicites, visuelles, que vous pouvez facilement reporter ensuite dans la fameuse to-do list de la veille pour le lendemain. De matérialiser ce qui est en cours, ce qui est fini ou ce qui est pas encore commencé. Et puis la douzième astuce, c'est de se donner absolument et de se bloquer absolument en plus des trois tâches de to-do. Donc les tâches de to-do, c'est pour faire enlever les choses qui sont écrites dans votre matrice, de vous bloquer une façon par tranche de 15 ou 20 ou 30 minutes. Au début, c'est dur de faire plus de 30 minutes, mais de vous bloquer une activité qui soit un tequil pour vous. Un tequil pour vous ressourcer, un tequil pour vous redonner de l'énergie. Le tequil qui vous convient à ce moment-là, ça peut être quelque chose qui soit dans la nature, une promenade dans la nature, ça peut être aller au squash, ça peut être aller faire votre cours de salsa, ça peut être vraiment ce qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui soit utile pour recharger l'énergie, le temps, la motivation, l'espoir que tout ça va être possible à faire. Si on court comme notre hamster Léopold dans sa roue, on aura l'impression d'avoir coché les choses dans notre to-do list, on aura l'impression d'avoir avancé, mais jamais suffisamment si on n'a pas pensé à ressourcer d'autres rayures qui clignotaient. Donc petit scan de votre rayure d'arc-en-ciel de besoin une fois par jour pour vous dire là, sur ma rayure de survie, ça va plutôt bien. Par contre, sur ma rayure d'identité, je me suis un petit peu perdue. Là, je n'ai pas l'impression d'exister pour qui je suis. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme tequil pour me sentir mieux, me sentir bien, me sentir écoutée, me sentir considérée? Et de voir quelle activité nourrirait ce besoin-là sur cette rayure-là. C'est de vous à vous, c'est quelque chose d'assez personnel. Je vous invite, si vous découvrez cette notion, à réécouter l'épisode 8 qui définit le terme d'un tequil et l'épisode 62 pour vous encourager à vous créer des tequils pour vous, en solo. En vous disant notamment « je mérite ce temps de repos, je mérite ce temps de régénération, ce temps de ressources, le repos n'est pas du temps perdu ». Le repos est du temps de capitalisation de l'énergie également. Ça peut être aussi bien un repos calme comme lire, vraiment, écouter de la musique, être seul chez soi sur son canapé, ou ça peut être un temps énergétique, aller faire un parcours d'escalade, aller voir sa meilleure amie, ça peut être ce que vous voulez du moment que ça remet un petit peu de motivation dans la machine. Sinon, on va finir par cocher et vouloir cocher absolument toutes les cases juste pour avoir l'impression de gagner sur le temps. Et j'ai voulu nommer cet épisode « Faire la paix avec le temps » parce que ce n'est jamais un combat. Le temps, de toute façon, va gagner. Si on se met en mode combat, si on se met en mode boxeur, le temps va gagner. Le temps est plus fort que nous. Donc, c'est à nous de nous adapter à la perception qu'on en a, pour moins en souffrir, pour moins la subir et pour en ressortir comme un allié. Chaque moment de ma journée où je crois subir mon temps, je perds un petit peu plus d'énergie. Restons acteurs de nos choix, restons acteurs de nos décisions. C'est votre matrice, tout ce qui est noté est légitime. Il y a moyen de réussir tout ce qui est écrit dessus, mais à un délai raisonnable, à un délai et à des attentes possibles, constructives, qui ne soient pas dans un épuisement de temps et d'énergie pour votre cerveau, pour vos ressources physiques, pour vos ressources émotionnelles. Et puis on verra la semaine prochaine à quel point le fait de partager le temps et notre vision du temps avec notre famille, avec notre partenaire de vie, avec nos enfants, va être aussi un levier considérable. Aujourd'hui, on a plutôt parlé de notre rapport au temps personnel, de nous à nous. Et puis la semaine prochaine, on va ouvrir vers l'activité ensemble pour mieux gagner du temps, pour mieux savourer le temps qu'on a. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, vos avis sur ces 12 pistes. Évidemment, si vous butez sur une des pistes et astuces, on peut voir ça en séance individuelle. Vous avez sur mes réseaux sociaux un lien avec le calendrier de réservation possible pour les séances de scan individuel. Donc vous pouvez réserver en ligne et puis je vous envoie ensuite le lien de paiement pour la séance individuelle. Et puis, quand on aura bien mis en place tout ça de nous à nous, bien mis en place dans la famille, bien mis en place avec les autres, hein, nos partenaires de travail, nos partenaires associatifs, les inconnus, les connus, j'espère, à la fin de cette série sur le temps, vous retrouverez vraiment une qualité et une sérénité qui va impacter aussi vos autres flammes. Puisque le temps est assez serrant dans notre cheminée, c'est un facteur déclenchant de se dire qu'on n'a jamais le temps. Et j'espère qu'à la fin de cette série, vous retrouverez vraiment beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement et de sérénité, et pour vous tout d'abord, et ensuite pour votre vie de famille. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur les réseaux pour me poser des questions si une des pistes n'était pas assez claire. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!